France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, 28e épisode, 1960, Brasilia et le président Bossa Nova. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Brésil de 1960 dont le dynamisme et la renaissance sont salués internationalement. Un pays qui réalise enfin la construction de sa nouvelle capitale, Brasilia. C'est le 25 septembre 1956 que le président Juscelino Kubitschek, récemment élu, avait publié le décret de l'édification de la nouvelle capitale sur l'immense plateau central ou Planalto Central. Peu auparavant, le compositeur Heitor Villa-Lobos avait rencontré à New York la danseuse noire Janet Collins, qui lui avait commandé un ballet, une sorte de cosmogonie qu'elle avait intitulée Genesis, la Genèse. Encore une fois, une œuvre tellurique propre à inspirer le compositeur, qui ne l'a hélas jamais entendue car elle a été créée en 1969 au Brésil, 10 ans après sa mort. Une musique qui va bien de pair avec la genèse de la fondation de Brasilia, telle que la raconte l'architecte Oscar Niemeyer dans ses mémoires. Un jour, le président vient chez moi, il me confie avec enthousiasme « Oscar, cette fois nous allons construire la capitale du Brésil, une capitale moderne, la plus belle capitale du monde. » Peu de temps après, nous avons pris l'avion avec Kubitschek et son équipe pour aller voir le site choisi. C'était un immense désert, perdu dans le Planalto Central. Mais ma surprise et mes inquiétudes se sont évanouies aussitôt devant son optimisme. Pour lui, tout était si clair, sa conviction et sa détermination si contagieuses que j'ai été convaincu que dans ce paysage de fin du monde surgirait en peu d'années la nouvelle capitale de notre pays.
Thank you.
Un mouvement de Genesis, la fresque symphonique de Villa-Lobos, Roberto Duarte à la tête de l'orchestre de la radio slovaque. La gestation du projet de Brasilia a débuté dans l'immeuble du ministère de l'Éducation, ce bâtiment où a vécu aussi Aitor Villa-Lobos. Nous avons rapidement compris, se souvient Niemeyer, que nous devions travailler sur place en même temps que les travaux en cours. Et là-bas, j'avais l'impression d'être au bout du monde. La seule échappatoire, c'était de nous réunir le soir pour causer, échanger des idées sur le chantier, jouer aux cartes. Les derniers temps, je jouais de la petite guitare cavaquinho au rythme des percussions, tandis que notre ami Paolo, la grande guitare, tournait autour de nous avec un déhanchement spectaculaire. Les travaux continuaient, la poussière rouge marquait les rues en construction et les ouvriers brisait l'ancien silence de cette terre qui commençait à se peupler. Roberto Minchuk à la tête de l'orchestre São Paulo, c'était l'arrivée des ouvriers, un extrait de la symphonie de l'aube, A Sinfonia da Alvorada, de Tom Jobim, prévu pour faire partie à Brasilia d'un spectacle son et lumière qui ne verra pas le jour, hélas. Quelquefois, raconte Niemeyer, Kubitschek nous invitait à passer une soirée au palais présidentiel de la Alvorada. Dans les salons du palais, réunis en cercle autour du président, nous l'écoutions raconter ses aventures. De temps en temps, notre ami Benet, qui jouait au piano ses mélodies, faisait entendre un air de samba qu'il aimait, et Juscelino se mettait alors à danser, avec aisance, léger, heureux, content d'oublier pendant quelques instants sa vie pleine de préoccupations. Et la conversation reprenait. Brasilia, les objectifs à atteindre, la route de Belém à Brasilia, la grandeur de cette route formidable qui obligeait à défricher les bois, à déraciner les arbres gigantesques et qui traversait des fleuves, des montagnes, des plaines, la vieille Amazonie inconnue et mystérieuse. Tard, vers 1 ou 2 heures du matin, il nous raccompagnait jusqu'à la porte. Et là, il nous retenait, saisi par la nuit de Brasilia. Le ciel immense, plein d'étoiles, les palais se dressant déjà, leurs formes blanches se détachant sur l'immense obscurité du maquis. Doucement, comme pour me dire un secret, Juscelino Kubitschek me prenait par le bras. Niemeyer, quelle beauté!
«
Genesis, la fresque symphonique de Villa-Lobos, Roberto Duarte à la tête de l'orchestre de la radio slovaque. Pour l'inauguration de Brasilia, les invités sont arrivés la veille, le 20 avril 1960. À 17h ce jour-là, le président Kubitschek reçoit les clés de la ville. Une messe est célébrée juste après minuit dans la cathédrale de Niemeyer. Le patriarche de Lisbonne arrive en cortège. Il porte pour l'occasion le crucifix de fer utilisé lors de la première messe célébrée au Brésil. La ville est entièrement plongée dans l'obscurité quand soudain toutes les lumières éclairent la ville nouvelle et à la fin de la messe, un message du pape Jean XXIII est retransmis par tous les haut-parleurs. Puis les cloches entonnent le même hymne que celui que le peuple avait chanté en 1792 lors de l'exécution de Tiradentes, le héros de la guerre d'indépendance du Brésil. Toujours la symphonie de l'aube de Tom Jobim. Le 21 avril 1960, avant le lever du jour, on compte déjà 200 000 personnes disséminées dans les rues dessinées sur cet immense plateau. Quand le soleil apparaît, un orchestre d'harmonie interprète le populaire chant de l'aube et le drapeau brésilien est hissé par le président Kubitschek face au palais présidentiel d'Alvorada. Puis c'est le défilé militaire au son de la musique des fusiliers marins. Les militaires précèdent en fait un défilé plus émouvant, celui de tous les véhicules et machines qui ont participé à l'édification de la ville pendant 4 ans, avec la foule innombrable et anonyme des ouvriers qui ont vécu sur ce chantier toutes ces années. Le monde entier est fasciné par le nouveau Brésil et par cette jeune capitale, symbole de l'énergie créatrice du pays. L'homme, deuxième mouvement de la symphonie de l'aube de Tom Jobim par l'orchestre de São Paulo dirigé par Roberto Minchuk. C'est dans l'atmosphère euphorique des derniers mois de la présidence de Kubitschek que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir visitent le Brésil du 12 août au 1er novembre 1960 avec leur amphitryon, l'écrivain Jorge Amado. Nous roulâmes toute la matinée, écrit Simone de Beauvoir dans son récit La force des choses, sur une route infinie, droite, à travers le Cerrado. Des broussailles, des arbustes, des arbres rechignés sans une feuille verte ni une fleur, sauf de loin en loin, insolites, d'énormes grappes violettes se balançant parmi les branchages dépouillés. Pendant toute une journée encore, ce fut la même brousse, la solitude. Le soir enfin, nous atteignîmes Brasilia. Une maquette grandeur nature, ai-je noté. C'est cette inhumanité qui saute d'abord aux yeux. Cependant, chacun des bâtiments conçus par Niemeyer est beau. Le palais du gouvernement, la haute cour de justice, les deux gratte-ciels où sont les bureaux, l'élan à l'horizontale d'un brise-soleil suspendu sur le vide étonne tous les visiteurs. Les hommes ont tiré du désert la plus arbitraire des métropoles, Le désert la leur reprendra, si jamais leur obstination fléchit. Ils la cernent, menaçant. Le lac artificiel ne rafraîchit pas le regard. Cette plaque d'eau bleue semble le reflet terrestre du ciel en feu. Ponteiu, prélude numéro 40 de Camargo Guarnieri, Wilhelm Lachumia au piano. Sartre et Beauvoir étaient arrivés à Recife le 12 août. Durant plus de 2 mois, ils parcourent le pays, de Salvador de Bahia à Rio, São Paulo, Ouro Preto, Fortaleza et Manaus. En dehors des conférences, Jorge Amado et son épouse Zélia Gattai leur font visiter des fazendas, des plantations de cacao et de café, des marchés populaires, des villes très modernes et aussi des favelas. Puis le couple séjourne à Rio de Janeiro. À Rio, écrit Simone de Beauvoir, la beauté de Copacabana est si simple que sur les cartes postales on ne l'aperçoit pas. J'ouvrais ma fenêtre au 6e étage. Dans ma chambre entrait une odeur d'iode et de sel, et le roulement des hautes vagues. On se baigne peu, les eaux sont trop violentes. Il était difficile de penser que cette solitude nonchalante, que la splendeur brute de l'océan et des rochers appartenait à une grande cité compacte et fiévreuse. Le soir, une brume à l'odeur d'étuve tamisait les lumières des immeubles, le néon des enseignes. Et il n'y avait rien au monde à désirer que ce scintillement, cette fraîche moiteur.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
C'était le Ponteio numéro 24 de Camargo Guarnieri par Nelson Freire. On était en pleine campagne électorale, explique Simone de Beauvoir. Le Brésil se préparait à choisir un nouveau président. En outre, Rio, déchu de son rang de capitale au profit de Brasilia, constituait désormais le nouvel état de Guanabara, dont il fallait nommer le gouverneur et les représentants. C'est à Simone de Beauvoir qu'on doit les plus belles pages sur le voyage du couple au Brésil. Curieusement, à leur retour en France, comme beaucoup de voyageurs étrangers, ils ont vite oublié ce pays qui les a accueillis si chaleureusement. Le professeur Carlos Augusto Caliu nous parle de ce genre d'attitude. Il évoque entre autres la générosité de Blaise Sandra, de Darius Milhaud, et il exprime l'opinion des Brésiliens à ce sujet.
J'écris un texte sur le voyageur au Brésil dans le XXe siècle. Et j'ai utilisé un concept de transitive et intransitive. Et je disais que Blaise était transitive et que Darius Milhaud était transitive. Mais Claudel n'était pas, Sartre n'était pas, Henri Michaud n'était pas. C'est très important pour avoir des rapports ou n'avoir pas de rapports, ou refuser les rapports. Parce que les Brésiliens étaient toujours sympathiques aux étrangers, mais la réception n'est pas réciproque. Chaque fois, ça dépend. Nous avons un complexe d'infériorité. Pour un film brésilien être reconnu au Brésil, il faut, comme le temps de Glauber Rocha, c'est la même chose, il doit être reconnu là-bas et après ici.
Camargo Guarnieri, Ponteio numéro 30, Wilhelm Lachumia au piano. Quant à Jorge Amado, qui a accompagné Sartre et Simone de Beauvoir, il est rentré dans sa chère ville de Bahia. Il est sur un petit nuage en 1961. Son dernier roman est un succès de librairie étonnant. C'est l'un de ses chefs-d'œuvre. Gabriela, Cravo et Cannelle. Gabriela, parfum de girofle et couleur cannelle. Mais les journalistes, surtout ceux de gauche, l'accusent de machisme, notamment les militants communistes qui ne lui pardonnent pas d'avoir quitté le parti avec fracas en 1955. Le roman se passe dans un port, près de Bahia, et le personnage principal, et cela est très nouveau, c'est un Brésilien d'origine syrienne, de cette communauté qui avait quitté l'Empire ottoman dès la fin du XIXe siècle et dont les membres sont encore appelés aujourd'hui Ous Turcus, les Turcs, à cause de leur passeport. Il tombe amoureux de la belle Gabriella qui a fui la sécheresse du Sertão et vient d'arriver sur la côte. Une femme beaucoup trop libre pour se soumettre à un mari qui joue les machos. Le roman est adopté aussitôt par les lecteurs et Jorge Amado devient le chantre du petit peuple de Bahia. Gabriella, dira-t-il, paraît alors qu'on est en train de construire Brasilia. C'est un livre très optimiste sur la vie. Ce qui caractérise Gabriella, c'est une respiration plus ample, une connaissance plus profonde de la réalité, avec un élément nouveau, l'humour. Le roman a été adapté en 1975 dans une telenovela, une série télévisée très populaire, et c'est Gal Costa qui chantait la chanson du générique, écrite par Dorival Caymmi.
Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, meus camaradas. Nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, etc e tal, Gabriela, sempre Gabriela. Sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela.
La voix de Gal Costa nous ramène à la musique populaire brésilienne et nous entraîne de Bahia à Rio de Janeiro et à la Bossa Nova et aussi à son grand poète Vinícius de Moraes qui continue, outre ses chansons, à écrire ses recueils de poésie. J'éveillerai les oiseaux nocturnes qui se taisent dans les branches par crainte des ténèbres et qui attendent s'endormir que l'aube se lève. Oh, mon rio bien-aimé au bord de la mer, je t'aime. Sous le soleil, dans ta nudité absolue et dans ton calme au clair de lune quand les montagnes méditent. Quel silence on entend se poser là, quelle gravité de la nature. Je sais que sous le soleil, Rio est trop clair, bien trop clair et sans mystère. Mais à celui qui a l'habitude de la nuit, à celui qui sait entendre la musique des ténèbres, quand dans les ténèbres la vie se reproduit, la ville s'offre dans un climat universel d'éternité. Thank you. une valse du soir, des scènes de Rio Cenas Cariocas, composées entre 1961 et 1963 par José Guerra Vicenti et interprétées au violoncelle et au piano par Peter et Miriam Dauelsberg. Au Brésil, la situation politique n'est pas brillante. Si le président Kubitschek était un héritier de Getúlio Vargas dans tout ce que ce dernier pouvait avoir de progressiste, Jânio Quadros, le vainqueur des élections qui prend ses fonctions à Brasilia le 31 janvier 1961, est un électron libre, autoritaire, qui plonge très vite le pays dans un grand désarroi. Ancien gouverneur de l'État de São Paulo, il avait su par sa rigueur et son moralisme s'attirer le soutien d'une bonne partie de l'électorat populaire. Hélas, derrière ce vernis se cachent beaucoup d'incohérences, de contradictions, surtout quand son opposant, João Goulart, est réélu à la vice-présidence. La passion de Jânio Quadros pour le communisme cubain et chinois, son autoritarisme, son populisme, surtout lors de la visite officielle d'Ernesto Guevara au début du mois d'août, achève de pulvériser le soutien qu'il avait encore. Le 25 août, il annonce sa démission et à son grand étonnement, elle est aussitôt acceptée. C'est alors João Goulart qui, selon la Constitution, est nommé président du pays. Quant au compositeur Camargo Guarnieri à São Paulo, il est très en verve ces années-là et il y a à nouveau du New York dans l'air comme dans son showroom pour piano et orchestre. Thank you. Le troisième mouvement du choro pour piano et orchestre de Camargue ou Guarnieri, Caio Pagano, avec l'orchestre symphonique de l'Université de Londrina, sous la direction de Norton Morozovic. Le nouveau président João Goulart donne un nouvel élan au pays. Et il a compris tout l'intérêt qu'il y a à soutenir les musiciens de la bossa nova afin d'accroître encore le rayonnement du pays au niveau international. C'est dans cet enthousiasme que naît l'une des mélodies brésiliennes les plus célèbres au monde, A Garota de Ipanema, la fille d'Ipanema. Elle a été chantée la première fois le 2 août 1962 au Bon Gourmet, en français dans le texte, un restaurant haut de gamme racheté par un mélomane qui en a fait à Copacabana une salle de spectacle pouvant réunir 300 personnes. Sur scène, c'est le show Encontre ou La Rencontre qui réunit pour la première fois João Gilberto, Tom Jobim, Vinicius de Moraes et l'ensemble Os Cariocas. Ce sera d'ailleurs la dernière fois que Vinicius et Tom travailleront ensemble. Vinicius ira rejoindre l'ambassade brésilienne à Paris et Tom partira à New York. Le spectacle tient l'affiche un mois et demi, avec en vedette cette chanson pleine de nostalgie, voire de tristesse, solitude du poète, qui voit passer cette beauté et se sent condamné à l'admirer seulement à distance. Vinicius a raconté comment leur est venue l'idée de cette composition. On buvait une bière, Tom et moi, au bar Veloz, ou un bar qui s'appelle aujourd'hui à Garota de Ipanema, quand soudain Tom s'est tu, fasciné, en voyant passer une jeune fille qui, par le balancement de sa démarche, développait une sorte de géométrie spatiale qui était presque une samba.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. E fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho.
Et voilà que New York entre à nouveau en scène au Brésil. L'Amérique se passionne depuis déjà un moment pour le pays. Et le chargé de la culture dans le gouvernement de João Goulart est approché par un producteur de Manhattan qui a l'idée d'organiser un concert le 21 novembre 1962 au Carnegie Hall, lors duquel João Gilberto et Tom Jobim lanceraient la bossa nova aux États-Unis. Goulart, enthousiaste, décide de soutenir le projet. Et dans la liste des noms de la délégation brésilienne, il y a bien sûr Tom et João, mais pas Vinicius de Moraes, peu confiant dans le producteur du concert. Carlos Lira, Agostinho Di Neto, le chanteur du film Orfeu Negro, et bien d'autres sont aussi du voyage. Le soir du concert, 3000 personnes se pressent au Carnegie Hall, dont de grandes stars de la musique nord-américaine comme Dizzy Gillespie, Errol Garner ou Miles Davis. Et les grands journaux sont présents. Dans les coulisses, tout le monde a le trac. Au niveau technique, il y a eu très peu de répétitions. Mais le succès public est au rendez-vous. Même si la presse a été sévère, et puis Tom et João ont fait un triomphe. Tout le monde rentre ensuite au Brésil, sauf João e Astrud Gilberto, Tom Jobim et quelques autres. À New York, ils vont bientôt se faire un nom. Et la rapaziada, la bande de copains, va bientôt se disperser avec quelques mélancolies. Caio Pagano et l'orchestre de Londrina dans le deuxième mouvement du Concertino de Camargo Guarnieri, créé en 1962 lors de son séjour aux États-Unis. Pendant ce temps, Tom Jobim, João et Astro Gilberto sont invités dans plusieurs clubs et sont reçus avec d'autres musiciens bossa nova par Jacqueline Kennedy à Washington. Puis le petit groupe se sépare Chacun va faire un peu bande à part. Un an plus tard, Jean Gibertou est invité à New York par un producteur de disques américain qui veut l'associer au jazzman Stan Getz. L'enregistrement se passe dans une atmosphère très tendue. João enregistre La fille d'Ipanema en portugais avec Stan Getz au saxo. Mais Astrud insiste pour chanter la version en anglais. Stan Getz est totalement sous son charme et il est ravi. Et au final, c'est la seule version qui restera sur ce disque qui fera le tour du monde. Et peu après, Astrud quittera João pour Stan Getz.
Walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watched her so sadly.
Jolie manière de se dire au revoir aujourd'hui que cet enregistrement légendaire et en anglais de La Garota de Ipanema. Rendez-vous donc dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet, à la technique Julien Douminc, attaché de production Nelly Portal. On peut bien sûr écouter ou réécouter cette émission en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.